En fait, cet ouvrage, qui est donc mon mémoire de master, parle de la présence américaine pendant la Seconde Guerre mondiale en Guyane, ce qui est un sujet qui jusqu'à maintenant n'avait jamais été véritablement traité, même s'il a déjà été globalement évoqué dans certaines études. Et donc, moi, j'ai décidé de le traiter en utilisant comme fil rouge la présence d'un explorateur américain, qui s'appelle donc Nicol Smith. Donc, il est explorateur, il est écrivain, il est conférencier, il a fait des études d'histoire, qui, lui, est venu en Guyane en 1933 et en 1941. 1941 étant la date qui nous intéresse le plus, parce qu'évidemment, on est pendant la Seconde Guerre mondiale, la France est sous le régime de Vichy, et donc la Guyane également. Et donc, il arrive en Guyane alors que les frontières sont fermées. Et donc, il est un témoin privilégié de cette période-là, sur le plan politique, sur le plan social. Et il écrit un ouvrage l'année d'après, qui s'appelle Black Martinique, Red Guyana, dans lequel il parle évidemment d'abord de son petit voyage en Martinique, et surtout, surtout de la Guyane. Et donc, j'ai décidé de m'en servir, moi, pour parler de la présence américaine, parce que, au cours de ses pérégrinations à Cayenne et aux alentours de Cayenne, il me permet, cet explorateur-là, d'aborder tout un tas de sujets en lien avec la présence américaine en Guyane, dont la construction de deux aéroports, puisqu'il rencontre le fameux Harvey Blalock, qui est complètement désespéré à l'époque. Il est également très en contact avec tout le personnel de l'administration coloniale. Et on parle également du bagne, qui est donc la partie qui m'intéresse, la troisième partie qui m'intéresse dans cet ouvrage, donc la perception américaine du bagne à travers la littérature, à travers la presse, à travers le cinéma. Et voilà. Au départ, j'ai fait un stage au service langue, culture et patrimoine de la collectivité territoriale de Guyane. Et donc, quand je suis arrivé là-bas, je leur ai dit que je faisais une licence d'histoire en anglais. Donc, c'était ma formation. Ils m'ont dit, c'est très bien. On a quelque chose pour toi. Donc, c'était un livre à caractère historique, qui est donc Black Martinique, Red Guyana. On va dire que les gens du service avaient un peu de mal avec l'anglais. Et ils m'ont dit, tu vas le traduire. Et ce sera l'une de tes tâches lors de ton stage. Donc, j'ai traduit un chapitre. Et ils étaient assez satisfaits du résultat, évidemment, quelques corrections apportées. Et puis, ils m'ont dit, du coup, je pense qu'on va se lancer dans un projet éditorial plus complet, plus complexe, et donc tu vas tout traduire et on va publier ce livre. Alors, ce qui est intéressant déjà, c'est tout simplement que l'auteur, Nicol Smith, était à l'époque un écrivain, un aventurier et un explorateur. Et donc, il vient en Guyane, ce qui est très rare pour l'époque. Il vient en Guyane en 1933, pour la première fois. Il reste 2 semaines. Et il revient en 1941, alors que la Guyane est sous le régime de Vichy et que les frontières de la colonie sont fermées. Donc techniquement, personne n'est censé pouvoir rentrer. Lui, il a trouvé un moyen de rentrer. Et donc, en 1942, il propose le récit de ces deux voyages-là, le premier de 1933 et le second de 1941. Et donc, il devient automatiquement un témoin privilégié de ce qui se passe en Guyane à ce moment-là. Et d'ailleurs, les années 1933 sont aussi intéressantes, hein, je m'en sers dans mon master. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un caractère historique. Ce n'est pas juste un roman, ce n'est pas un roman vraiment d'ailleurs, ce n'est pas seulement un récit de voyage. Il y a vraiment moyen, j'ai pensé en tout cas, d'utiliser cet ouvrage comme source historique. Alors, c'est vrai que c'était pas simple au départ, parce que je suis donc allé aux ATG, donc les archives territoriales de Guyane, où je travaille d'ailleurs aujourd'hui. Et à l'époque, on va dire que le bâtiment ne permettait pas des conditions optimales de conservation pour les archives. Ce qui fait que tout n'était pas classé, et donc on n'était pas véritablement en mesure de savoir s'il y avait des archives sur cette question-là. Donc, il a fallu tenter quelque chose de nouveau, voilà, un petit peu plus difficile. Donc, il a fallu tout simplement aller aux États-Unis. Je me suis tourné vers les sources américaines. La question qui se posait à l'époque, c'était lesquelles? Bien, essentiellement celle de la Pan American Airways, puisque donc c'est cette compagnie qui s'est installée en Guyane dans les années 40 pour construire d'abord l'aérodrome du Galion. Alors, j'allais dire l'aéroport de Rochambeau, mais en fait, non, juste l'aérodrome du Galion. Enfin, on va dire essentiellement. Et donc, cette compagnie n'existant plus, ses archives se trouvent à Miami. Et donc, l'argent des stages, justement, le fameux stage dont je parlais plus tôt, m'a permis d'aller aux États-Unis consulter ces archives. Et puis, j'ai également consulté les archives privées de Nicol Smith, qui se trouve à Stanford, donc dans un second temps. Pareil, toujours les économies, le voyage. Et donc, j'y suis resté 3 jours. C'était absolument fascinant, parce que là, j'ai vraiment pu découvrir Nicol Smith là, bien plus en détail. Il y avait même des objets qui lui appartenaient, notamment son carnet, il y avait de la correspondance, c'était absolument super. Alors, outre les sources américaines, il y a eu aussi des sources orales. Je pense notamment à Monsieur Émile Blanc, que j'ai rencontré 4 mois avant son décès, et qui avait quand même 99 ans à ce moment-là, qui lui se trouvait à La Rochelle. Donc pareil, il a fallu se rendre à La Rochelle, sachant qu'à l'époque, je vivais à Paris. Alors, C'était très, très émouvant comme moment, parce que M. Émile Blanc était donc très âgé, ne pouvait pas parler plus de 15 minutes, et il m'a accordé 4 heures de son temps. Et donc Émile Blanc, pour la petite histoire, c'est celui qui a récupéré l'aéroport de Rochambeau des mains des Américains en 1949, mais qui n'y est pas parvenu. Voilà. Et puis il y a eu tout simplement aussi quelques archives que j'ai trouvées à Paris. C'est d'ailleurs là que j'ai commencé mon travail. Donc pour répondre à la question de la structure, j'ai commencé par chercher à Paris en imaginant que je trouverais notamment des rapports sur la venue de Nicole Smith. J'en ai trouvé un, mais en fait, je n'ai trouvé que ça. Je n'ai finalement pas trouvé grand-chose. Alors, ce qu'il faut également savoir, c'est que la recherche n'a pas été facile au départ, parce que beaucoup des archives sur la Guyane sont en fait classées dans des boîtes qui concernent les Antilles. Ce que je ne savais pas et ce que beaucoup d'archivistes ne savaient pas non plus. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien rappeler pour les chercheurs qui viennent après. Et en fait, ne trouvant pas grand-chose, je me suis dit qu'il fallait absolument que je parte aux États-Unis parce que j'avais le temps et j'avais l'argent. Ceci dit, j'ai été limité parce que à partir de 1943, en fait, l'aéroport de Rochambeau a été construit par l'armée américaine et non plus par la panaméricaine. Il fallait que je me rende à Washington, sauf que là, plus de temps, plus d'argent. Donc je me suis arrêté là, donc ça, ce sera pour une autre publication, je l'espère. Pour la période qui, moi, m'a intéressé, donc c'est-à-dire, on va dire, au début des années 30 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce qui était intéressant pour les États-Unis, c'était évidemment pas juste la Guyane, mais tout le continent sud-américain. C'est ce qu'on appelait le « backyard », quoi. Il fallait avoir autant de pions que possible sur cet échiquier-là. Et donc, les Américains construisent, par le biais de la Pan American Airways, des aéroports, des aérodromes un petit peu partout, histoire d'avoir, donc, comme je disais, des pions. Sauf qu'il en manquait un en Guyane. Guyane étant un territoire un petit peu particulier de l'Amérique du Sud, puisque c'est français, puisque elle deviendra par la suite un département. Et ce n'est pas un pays lusophone, ce n'est pas non plus un pays hispanophone, et il y a des petites particularités locales. Les États-Unis, en fait, veulent tout simplement compléter ce réseau d'aéroports et envoient la Pan American en 1941 en Guyane. Ce qu'ils cherchent essentiellement, c'est essayer de repousser la présence nazie en Amérique du Sud. Donc s'il y a des Américains partout, on se dit que ce sera plus facile, entre guillemets, de débarquer dans le territoire en question, si jamais on sent qu'il y a une présence nazie un petit peu trop forte. À un moment donné, ce qui a été le cas en Guyane, il y avait beaucoup de navires allemands qui se baladaient, les Américains n'aimaient pas trop ça, et donc c'est tout simplement une façon de contrôler un petit peu ce qu'ils considéraient comme leur territoire périphérique, quoi. Par la suite, ça j'en parle un petit peu d'ailleurs dans l'ouvrage, je sais qu'il y a eu des velléités d'investissement, notamment dans certains minerais en Guyane, ça n'a pas véritablement fonctionné. Ça j'en parle beaucoup aussi dans la troisième partie de l'ouvrage, je fais un peu d'histoire sociale et je reviens sur la perception de la Guyane par les Américains, qui s'y sont beaucoup intéressés pour des raisons plutôt politiques, puisque la France pratiquait le bagne en Guyane. Et comme on disait beaucoup que la France, on dit toujours, la France est le pays des droits de l'homme, on ne comprenait pas que la France continue pratiquer le bagne dans ces conditions-là. Et donc, il y avait une espèce de production littéraire et cinématographique sur la Guyane, à propos de la Guyane, qui évidemment était interdite par le gouvernement français, mais qui permettait de produire un discours à l'international. Et donc, après, on voit un petit peu jeu de diplomatie, de soft power, etc., etc. Alors en fait, Nicole Smith ne reste pas si longtemps que ça en Guyane. Au total, je crois que ça fait un mois, c'est-à-dire deux fois deux semaines. Deux semaines en 33, deux semaines en 41. Donc finalement, c'est pas tant que ça, mais Nicole Smith bouge énormément. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il reste beaucoup à Cayenne, comme énormément de voyageurs. Néanmoins, il y a quand même quelques chapitres sur Kourou. Je sais qu'il est allé également jusqu'au Suriname, parce que ce que Nicole Smith ne dit pas, c'est qu'en fait, je crois que lors des deux voyages, il est allé au Suriname juste avant. Donc, évidemment, comme il publie un ouvrage sur le Suriname indépendamment de celui sur la Guyane, il ne le dit pas. Hein, il coupe un petit peu les deux. Sauf qu'en fait, les deux se sont faits dans le même temps. Il vient avec Lorraine Tuttle en 1941, qui est un photographe, qui paraît-il était l'un des meilleurs à l'époque, ce qui nous a permis donc d'avoir des photographies de la Guyane en 1941, ce qui est vraiment, vraiment pas mal, notamment parce que Nicole Smith visite le bagne des Annamites. Pour la petite histoire, lorsque j'ai fait donc mon stage en 2015 en Guyane, la CTG était en train d'aménager le bagne des Annamites pour qu'il soit visitable. Et donc, on avait envisagé de se servir des descriptions du bagne par Nicole Smith et surtout de ses photos, qui étaient vraiment très, très précieuses. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que, ça c'est ma théorie, j'en parle également dans l'ouvrage, je pense que Nicole Smith, dans ce livre, a beaucoup, on va dire, fait semblant. Je pense qu'il a fait semblant de souscrire à l'idée du bagne pour pouvoir rentrer en Guyane. C'était interdit. En plus, il était américain. Donc, la première question qu'on lui a posée, c'est « Voulez-vous parler du bagne ? Et voulez-vous également dire que la France est le pays des droits de l'homme et qu'on ne devrait pas, etc. ?» Donc, il lui dit « Pas du tout. » Et donc, quand il en parle, il fait quand même pas mal de compliments. Il dit que c'est pas si terrible que ça, que tout va bien et que la réputation à l'international de la France est largement exagérée. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir que quand Nicole Smith quitte la Guyane, en 1941, il devient agent secret. Et sa première mission, c'est de se rendre à Vichy pour montrer les photos qu'il a prises en Guyane, de les montrer au maréchal Pétain, et de se faire passer donc pour un attaché culturel auprès de l'ambassadeur américain en France. Donc, quand même, il va espionner les Français juste après être rentré dans leur colonie. Donc, je pense que ça en dit long quand même sur ce que Nicole Smith pensait véritablement. Moi, je vous avoue que c'est ma partie préférée. Le Galleon Field, c'est donc l'aérodrome du Galleon, qui est une petite piste aéronautique construite par la Pan American Airways à partir de 1941. Donc ça correspond à ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le fameux réseau d'aéroports que les Américains voulaient construire. Donc il s'agit tout simplement de cet aérodrome-là, qui est au départ très modeste. Et donc les Américains envoient en 1941 un ingénieur qui s'appelle Harvey Blalock pour gérer un petit peu tout ça, tout ce chantier-là, ce dossier. Ça se passe extrêmement mal. Il y a des accents un peu tragicomiques dans l'histoire d'Harvey Blalock en Guyane, qui découvre déjà la météo, savoir que c'est un pays extrêmement humide, qu'il y a une saison des pluies qui dure plus de 6 mois et qui n'a pas volé sa réputation, parce qu'il pleut véritablement quasiment non-stop, avec les conséquences qu'on peut imaginer lorsqu'on souhaite construire un aérodrome, quoi. À savoir que, en plus, ils le construisent sur des marais, donc la piste s'enfonce. Là, je vous passe les détails parce que c'est absolument épique. Mais en fait, ce qui est véritablement intéressant, c'est le rôle politique de l'aérodrome du Galleon. À savoir que la France ne peut pas véritablement dire non à la construction, de cet aérodrome, tout simplement parce que la France de Vichy à ce moment-là est neutre. Et donc, elle ne dit pas officiellement qu'elle collabore. C'est beaucoup plus complexe et nuancé que ça. Et donc, elle est obligée de dire oui, parce que sinon, on pourrait justement l'accuser de quelque chose. Ça deviendrait suspect. Donc, elle dit, allez-y, installez-vous, faites donc un aérodrome, ce sera celui du Galleon. Mais par contre, il faut qu'il soit construit, mais pas qu'il soit utilisable, parce qu'on a peur d'un débarquement américain en Guyane. Et c'est en réalité exactement ce qui va se passer. En mars 1943, les Américains vont débarquer grâce au Galleon Field, qui en fait ne sera jamais véritablement opérationnel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils vont très très vite l'abandonner et qu'il servira moins d'un an. Parce qu'en fait, la personne qui doit donner l'autorisation pour la construction de l'aérodrome du Galleon est l'amiral Robert, qui est en Martinique, qui a d'ailleurs marqué les mémoires parce qu'il avait un petit côté, on va pas dire une dictature, mais c'est quelque chose qui ressemblait à ça. Au départ, il ne donne pas d'autorisation. Donc on attend, puis il finit par donner une autorisation temporaire. Donc il dit « Allez-y, construisez, mais attention, avant de l'utiliser, vous devez attendre mon autorisation définitive. » Puis finalement, quand il donne son autorisation définitive, il nous dit « Très bien, alors allez-y à fond. » Ceci dit, il faut laisser environ 100 mètres, comme ça, à la fin de la piste, 100 mètres de vide, ce qui fait qu'elle n'est pas utilisable. Et donc, c'est pour ça que finalement, les Américains ont quand même réussi à débarquer pour organiser le ralliement à De Gaulle. Mais l'aérodrome en lui-même n'a pas véritablement tenu. Déjà parce que la piste n'était pas du tout faite pour recevoir des avions militaires, ce qui a été le cas à partir du débarquement, on l'imagine. Et parce que la piste avait été construite par la Pan American, donc c'était un service commercial. Et donc cet aéroport commercial incomplet est devenu un aéroport militaire pendant à peu près 8 mois, ce qui a littéralement complètement détruit cet aérodrome. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un avion atterrissait, il fallait envoyer une équipe pour rafistoler la piste. Donc c'était vraiment très très artisanal. Et c'est pour ça que l'armée américaine débarque en Guyane pour construire l'aéroport de Rochambeau, qui est lui aéroport dernier cri des années 40, et que s'installe d'ailleurs en Guyane, à Rochambeau, donc du côté de Matoury aujourd'hui, petite colonie américaine. Il y a des baraquements en bois et puis on voit des Américains qui se baladent dans les rues de Cayenne.